Ele é bebê, ele é bebê.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode numéro 9, j'accueille Justine, maman de deux filles, qui vient nous livrer son histoire. Son expérience a été si transformatrice qu'elle a choisi de s'orienter vers le chemin de doula. Au cours de son récit, elle aborde naturellement des sujets variés, allant de la déchirure du périnée à celui ô combien tabou du placenta. Je vous souhaite une très belle écoute. Bon Justine, je suis enchantée d'avoir trouvé un créneau pour qu'on puisse échanger. Et je vais te laisser te présenter pour démarrer ce nouvel épisode.
Coucou Laetitia, merci à toi de donner la parole à toutes ces femmes qui ont envie de raconter leur histoire. Donc moi je suis Justine et je suis en passe de devenir doula. Voilà.
Enchantée.
Je suis aussi maman de deux petites filles, de 3 ans et 1 an. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter l'histoire de mon premier accouchement.
Super.
Je vais commencer cette histoire par recentrer un petit peu le moment où j'ai appris ma première grossesse. Donc, c'était un moment de ma vie où, avec mon conjoint, on aimait tout ce qui était développement personnel, le voyage, la spiritualité, et je faisais aussi beaucoup de yoga. C'est une grossesse qui n'était pas du tout attendue, mais qui arrivait comme une surprise.
D'accord. C'était donc une belle surprise.
Oui, c'était une très belle surprise. Ce qui arrivait, en fait, c'est que j'étais une jeune fille, jeune femme, qui n'avait pas du tout confiance en elle. J'avais du mal à parler de moi, à me mettre... pas en avant, mais tu vois, essayer de comprendre un petit peu où j'en étais. Mmh. Et quand j'ai appris cette grossesse, ça m'a assez bouleversée. Donc au début, je suis allée voir tout simplement un gynécologue. Je connaissais rien à la maternité, c'était tout nouveau pour moi. Et je ne me suis pas sentie écoutée, je ne me suis pas sentie à l'aise en fait avec cette méthode-là. Mmh. Le rendez-vous a duré très très peu de temps. Et quand je suis ressortie, je me suis tout de suite dit non, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. J'ai besoin d'être écoutée, d'avoir un suivi process qui soit plus proche de mes convictions. Et du coup, tout naturellement, j'ai commencé à chercher une sage-femme que j'ai trouvée assez rapidement et qui m'a reçue. J'étais à peu près 2 mois de grossesse. Okay. Et là, je me suis sentie écoutée, en confiance très rapidement. La question de l'accouchement, elle s'était jamais posée pour moi, mais je me suis dit, la péridurale, bon, souvent c'est la première question qu'on se pose, est-ce que je vais prendre la péridurale ou non? Parce que dans ma tête, c'était vraiment accouchement égale péridurale, hôpital, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, depuis très très longtemps, je suis phobique des médicaments. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas me faire avaler un comprimé. Pour moi, c'était pas possible d'avoir une péridurale parce que ça me faisait peur. J'avais peur des effets sur le corps plus que de la peur d'avoir mal en fait pendant la naissance. Du coup, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis renseignée sur l'accouchement physiologique, les naissances naturelles. Et j'ai été très surprise et en même temps, c'était quelque chose de tellement nouveau ça me faisait pétiller d'y penser. C'était quelque chose que j'avais hâte de vivre dès le début de la grossesse. Donc, cette sage-femme qui m'a tout de suite mis en confiance parce qu'elle-même, elle pratique l'accouchement physiologique. Elle suit beaucoup les allaitements, tout ce qui est autour de la maternité au naturel. Et en fait, quand j'ai commencé à parler autour de moi de mon choix de ne pas avoir de péridurale, je me suis sentie un peu comme dans ton dernier podcast où j'avais l'impression d'être une enfant, où on me disait « Mais Justine, toi, pas de péridurale, t'as souvent mal. » Moi, j'étais assez fragile, donc je fais des malaises facilement. Je suis un petit gabarit, donc on m'assimilait un peu à quelque chose d'un peu frêle. Mmh. Voilà, une personne pas très solide. Mais je ne me suis pas laissée démonter par ça. J'avais vraiment cette conviction-là. Et au fur et à mesure de la grossesse, je me suis intéressée à la physiologie de la femme, à la façon de mettre au monde les bébés, au niveau ancestral, au niveau de toutes les cultures du monde. Mmh. Et petit à petit, j'ai avancé vers ce cheminement. Au 7e mois de grossesse, il y avait le rendez-vous obligatoire chez l'anesthésiste, le fameux rendez-vous où on est obligé d'y aller même si on ne veut pas de péridurale.
Mmh. Et, au cas où.
Cet anesthésiste-là m'a dit « Vous êtes sûre, sans péridurale, ça fait très mal, vous allez souffrir. » Avec mon conjoint, on s'est regardé, on s'est dit « Mais c'est pas possible. » Enfin, on avait juste hâte de sortir de ce rendez-vous. J'aurais pu facilement penser que j'étais pas capable de le faire ou que c'était pas pour moi. Mais je me suis pas laissée... j'ai pas laissé... toutes ces paroles prendre le dessus sur mon inconscient et mon conscient. Je suis restée dans ma ligne de mire pour cet accouchement naturel. J'ai proposé un projet de naissance à la maternité qui a été très bien reçu. Une petite maternité, j'ai évité les grosses structures, justement, comme on dit, des usines à bébés. Donc j'étais très heureuse de ça. Ensuite, la grossesse s'est très très bien déroulée. C'est une grossesse que j'ai vécue sereinement. Moi qui avais souvent peur au rapport au corps, j'avais totalement confiance en ce qui se passait. Je n'étais pas inquiète du moindre symptôme. J'ai préparé cet accouchement de fond en comble. Vraiment, j'ai épluché tous les livres de grossesse, tous les sites internet. Donc, j'étais prête à vivre cet enfantement. Le jour de la naissance... Ça, c'était vraiment un de mes moments préférés. Je pense que ça doit te parler aussi, mais le fait de ne pas trop savoir est-ce que ça va être aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas être aujourd'hui, c'est vraiment un suspense qui me donnait vie, en fait.
Mmh, moi, j'ai adoré aussi.
J'ai adoré ce moment-là.
Et pourtant, il y a des fois, qu'est-ce que c'est long et quelques... Surtout quand on dépasse le terme.
C'est ça. Alors, j'ai eu la chance de pas dépasser le terme. Et ce soir-là, je l'ai senti sans vraiment me poser de questions. J'ai commencé à avoir quelques contractions. Donc, mon conjoint était au travail, j'ai pris une douche chaude, la fameuse douche chaude qui est censée soit lancer le travail, soit le ralentir. Et les contractions montaient petit à petit, mais la douleur, elle ne transcendait pas. J'avais mal, mais je me disais que c'était la douleur qui arrivait pour donner naissance, que ça allait bien se passer, que j'étais prête. Je parlais aussi à mon bébé en lui disant que j'étais prête à l'accueillir, que j'étais là pour l'écouter et puis pour l'aider à venir au monde. Je me souviens d'ailleurs que j'avais regardé mon gros ventre dans le miroir et je m'étais dit, bon, c'est peut-être la dernière fois ce soir que je pose les mains sur ce ventre rond. Ça m'avait mis un petit brin de nostalgie. J'étais très attachée à l'état d'être enceinte à ce moment-là. Et puis, les choses se sont accélérées petit à petit. Mais bon, je m'étais dit, premier accouchement, ce sera sûrement long. Mm-hmm. Mais j'ai tenu mon conjoint au courant en lui disant que j'avais quelques contractions. Et puis, il partait de son travail. Il y a du temps qu'il arrive, donc à peu près 45 minutes. Les contractions avaient vraiment pris une grosse ampleur. Mais je les prenais, en fait, et je les laissais passer. Je ne bloquais pas sur les contractions. Je les laissais venir comme elles étaient, en respirant profondément et en essayant de guider ces vagues aussi. Mmh. à les laisser prendre le dessus et puis perdre le contrôle. J'ai toujours énormément besoin d'avoir le contrôle sur mon corps, ce qui est assez difficile quand justement il faut lâcher prise pour redonner naissance.
Complètement.
Et là, j'ai été guidée seulement par sa voix, parce que je suis rentrée dans mon état de transe, j'appelle ça un peu comme ça, où je ne contrôlais plus ce qui m'entourait, ni ce que je vivais. Et on est parti à la maternité. J'avais aucune idée, même à ce moment-là, je ne me rendais pas vraiment compte finalement que c'était le travail. J'arrive encore à me dire que ça ne serait peut-être pas le moment en arrivant. Donc on est parti à la maternité. Donc, premier accouchement, on avait choisi la maternité. J'avais aucune idée de ce qu'était un plateau technique ou les accouchements à domicile à ce moment-là. Et le trajet de voiture m'a paru très très long. Mmh. Surtout les dodanes qui me secouaient un enfer. Mmh. Arrivée à la maternité, je n'arrivais plus à marcher. C'était très très puissant. Mais en même temps, c'était doux parce que je me sentais connectée à tout instant à mon bébé. Je sentais que ça allait bien et j'étais en confiance grâce à tout ce que j'avais pu lire pendant la grossesse. Grâce à mes recherches, je savais ce qui se passait au moment où ça se passait et du coup, j'étais sereine pour cet accouchement. Et quand on est arrivé à la maternité, les sages-femmes m'ont examinée, évidemment, et j'étais à 4 cm de dilatation. Okay. Et pour moi, c'était une surprise. Je me suis dit, ça avance super vite. Voilà, je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Et on est allé dans la salle physiologique. Donc, ils ont une salle, c'est aussi la salle que les sages-femmes peuvent louer pour les plateaux techniques. Okay. Avec cette grosse baignoire, ce lit. Et je me sentais un peu vidée de mes forces. J'ai eu besoin de m'allonger. Ce qui était assez étonnant parce que souvent, c'est vrai qu'on est quand même mieux en mouvement ou dans des postures où la gravitation se fait dans le bon sens. Mmh. J'ai eu besoin de m'allonger et là, j'ai été guidée seulement par la voix de mon conjoint parce que je ne contrôlais plus la douleur, ça devenait dur à supporter. Mmh. Les sages-femmes m'ont demandé une fois si je voulais la péridurale. J'ai dit non. Et elles n'ont plus osé m'en reparler parce que voilà, elles avaient compris que ce n'était pas ce que je recherchais dans mon expérience. J'avais besoin d'être en pleine conscience, de tout sentir, de tout suivre. Mmh. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être une demi-heure, même pas, entre 10 et 30 minutes qui sont passées, et les sages-femmes m'ont demandé à me réexaminer. Donc, j'ai dit oui. Je pense que si c'était à refaire, je n'aurais pas fait ce deuxième examen parce que je n'en avais pas besoin à ce moment-là.
D'accord.
Et j'étais à 8 cm de dilatation. Donc, en fait, le travail allait super vite.
Ouais.
Très, très rapide. Et du coup, je suis allée dans la baignoire d'eau chaude. Et là, je me suis sentie soulevée par l'eau. Ça m'a soulagée au niveau du dos, au niveau du ventre. C'était magique. L'eau, vraiment, ça a un effet magique. Mm-hmm. Surtout à ce moment-là. Et sur moi, après, bon, ça dépend des femmes. Mais en tout cas, sur moi, c'était... Je me vois pas encore aujourd'hui accoucher autrement que dans l'eau si c'était à refaire.
Ouais.
Donc pour te dire. Mmh. Et assez rapidement, j'ai senti. Bon là, j'étais au maximum de mes contractions. J'avais pas encore perdu la poche des os. J'étais dans un autre espace-temps. Je me sentais connectée avec l'univers, avec. Je pense avec toutes les femmes qui donnent la vie au même moment. C'était très très fort. Et puis, bon, à un moment, j'ai entendu un gros boum. Et effectivement, là, c'était la poche des os qui avait percé. Donc, c'était assez impressionnant pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis, très vite, j'ai eu envie de pousser.
Okay.
D'ailleurs, j'avais cette phobie aussi de faire caca dans l'eau. C'était un peu la même chose que dans ton ancien podcast.
Mais ça, c'est assez incroyable, en fait. On est hyper nombreuses à voir ça parce que, en vrai, je pense qu'on en parle tellement peu, il y a tellement de tabous autour de ça.
Oui.
quand on s'imagine, quand on en entend parler les premières fois, on se dit, mais oh, attends, c'est... on n'était pas au courant. Non, c'était pas dans le contrat.
Et pourtant c'était impossible parce que mes intestins s'étaient vidés toute la journée. Donc, oui. C'était pas possible. Mais j'avais cette phobie. Alors, je disais aux sages-femmes, je vais faire caca. Vraiment, c'était un peu hilarant. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Mais du coup, j'ai mis quand même pas mal de temps à faire les poussées. Encore une fois, là, c'était instinctif. Je n'avais pas besoin d'apprendre à pousser ou de savoir comment respirer. J'ai suivi l'ensemble des réflexes de mon corps au final parce que ma sage-femme m'avait expliqué qu'un accouchement, c'était comme un réflexe d'éternuement. Le corps fait ce qu'il a à faire au bon moment. Il faut le laisser faire. Donc, j'ai laissé faire et j'ai poussé. Ça a dû durer 20 minutes, je ne sais pas exactement. Mais du coup, la petite est arrivée. Et là, mes mains ont plongé tout de suite dans l'eau pour la réceptionner, avec mes mains maladroites d'ailleurs. J'avais peur de la faire glisser. Et je l'ai ramenée contre ma poitrine. Et là, c'était le moment magique où on découvre son enfant. J'étais tellement en forme, j'étais heureuse. Je me suis sentie un sentiment qu'on ne peut pas décrire, en fait, je pense. Qu'on connaît que quand on l'a vécu réellement. Je pense que chaque maman qui a déjà accouché et qui écoute ce podcast se reconnaîtront dans ce sentiment de toute puissance. Et c'était la plénitude. On a pris notre temps pour le cordon, pour découvrir le bébé. Tout allait bien. On était dans notre bulle d'ocytocine au maximum. Et là, c'est le moment en fait où j'ai relâché. Parce que je m'étais beaucoup préparée à l'accouchement. J'étais prête à vivre l'intensité de cet instant, mais pas ce qui allait suivre après. Donc, j'ai été assez choquée de voir mon ventre vide. Je ne peux pas imaginer ce moment-là. Et surtout, j'avais une appréhension vis-à-vis du placenta. Où on m'avait dit souvent que le placenta, les hommes n'aiment pas... C'est dégoûtant, c'est un organe. D'ailleurs, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu penser ça ? Quand on sait tous les bienfaits que le placenta a sur le bébé et sur la maman aussi. Et du coup, gros blocage, ça venait pas, j'avais plus de contractions. Et puis, j'ai eu un coup de froid, on est sorti de l'eau. Et là, je suis complètement sortie de la bulle d'ocytocine. J'ai eu une montée de stress parce que je voyais que les minutes passaient, que les sages-femmes n'arrêtaient pas de regarder l'heure. Et elles ont vu que j'avais une déchirure. Elles m'ont dit, bon, il y aura une déchirure à réparer, entre guillemets. Et là, j'ai compris que ça tournait un peu au vinaigre. Donc, après avoir vécu la beauté de l'accouchement dont j'avais rêvé, c'était un peu la descente aux enfers. Du coup, ils ont dû appeler le médecin pour préparer la sortie du placenta. Et là, j'ai vécu une expérience qui a été assez traumatisante pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, qui ai la phobie des médicaments, qui a besoin de tout savoir, d'avoir le contrôle, je me suis retrouvée en position gynécologique avec un nombre incalculable de médicaments, dont l'ocytocine de synthèse. J'ai eu la péridurale, du coup. Et là, le souci, c'est que on est tombé sur un médecin qui n'avait pas envie d'être là, je pense, et qui m'a... Ouais, qui... Je me suis sentie violée, en fait, par ce médecin. Il est arrivé dans cette pièce et il a regardé à mon entrejambe. Moi, j'étais à nu, je venais d'accoucher, donc j'avais le cocktail d'émotions qui était très fort. Et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? C'est n'importe quoi. Il a dénigré les sages-femmes en disant, mais pourquoi vous n'avez pas fait d'épisiotomie ? Les sages-femmes ont dit, mais on ne touche pas une femme qui fait un accouchement physiologique. Il n'était pas d'accord avec ça. Il m'a vraiment descendu comme si on avait mal fait, comme si j'avais mal accouché. Évidemment, à ce moment-là, je sais que c'est faux, mais je me sens vulnérable. Je ne peux rien faire et en plus, je n'ose pas en fait dire quoi que ce soit. parce qu'on se dit, mais si je dis quelque chose et qu'il me recoupe mal, voilà, on préfère se taire, ce qui est absolument impensable. On a des regrets. Après aussi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai rien dit? Je me sentais vulnérable à ce moment-là. D'ailleurs, les sages-femmes, ils ne les appelaient pas par leur prénom, c'était bistouri, enfin bref. Je ne vais pas épiloguer non plus là-dessus, mais je pense que c'est important d'en parler, parce que ce médecin-là m'a aussi dit, « Madame, vous n'allez plus jamais accoucher par voie basse, vous ne ferez plus jamais d'accouchement naturel, c'est fini. »
Waouh, une espèce de prédiction, voilà. Oh, l'horreur.
Complètement. Donc, t'imagines bien, moi, avec ma phobie et tout, je l'ai très, très mal vécu. Je ne voulais pas de masque d'oxygène, il m'obligeait, il m'appuyait dessus. Enfin bref, vraiment le cauchemar, et ça m'a fait encore plus réaliser que j'avais fait le bon choix de vouloir accoucher le plus possible par moi-même et de me faire confiance pour éviter en fait de me retrouver dans des situations où je ne contrôle plus ce qui se passe autour de moi. Mais après ce passage-là, donc ça a été un peu difficile de s'en remettre avec le postpartum. Je suis restée une semaine à la maternité. Parce que physiquement, je ne me remettais pas, et puis j'avais eu une trop grosse dose de péri, du coup...
Mais du coup, ils t'ont mis la péri pour t'aider à la délivrance du placenta?
Alors en fait, ils m'ont mis la péri parce qu'ils ont dû aller chercher le placenta.
Ok.
Donc, c'était obligé, en fait.
Pour eux, le protocole, le temps était dépassé, du coup, il fallait le chercher voilà, à la main.
C'est ça. Pour eux, ça faisait 30 minutes. Les sages-femmes, elles étaient tellement adorables, elles ont essayé de faire durer le temps, mais c'est les protocoles, et voilà. Du coup, ils ont été obligés d'aller le chercher par eux-mêmes. Et j'ai pas eu mal, mais j'avais mal psychologiquement, parce qu'on est venu, pour moi, m'arracher ce placenta.
Ouais.
Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Alors, je l'ai très, très mal vécu. Psychologiquement, ça a mis du temps pour que je m'en remette. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Mais je n'ai jamais cru à ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, il m'a dit ça. Mais il ne me connaît pas, il ne connaît pas la force du corps, ce médecin. Il n'était pas bienveillant envers moi et envers d'autres femmes. D'ailleurs, j'ai appris durant ma deuxième grossesse que l'hôpital a arrêté de travailler avec ce médecin-là.
D'accord.
Alléluia, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres femmes qui passeront une passade comme je l'ai eue avec lui.
Il faut espérer.
Pardon.
J'ai dit il faut espérer parce que je ne sais pas s'il ne travaille plus à un endroit, est-ce que c'est possible qu'il continue d'exercer ailleurs dans d'autres conditions, quoi.
Alors, si, certainement. Mais en tout cas, je sais que je ne suis pas la seule à avoir des histoires comme ça, surtout quand on passe de son accouchement de rêve à quelque chose comme ça de très négatif et de poignant au niveau hormonal, c'est très dur à vivre. Mais on se relève, on se remet debout et on oublie et on se refait confiance parce que le corps, il fait des merveilles et qu'il faut, il faut pas se laisser abattre, même s'il y a effectivement dans un accouchement, il y a toujours environ 20% où c'est purement médical, il y a le hasard aussi qui joue. Mais le corps, il peut faire des prouesses et cette cicatrice, elle a très bien cicatrisé. Et aujourd'hui, j'ai réaccouché de la même manière. Et ce médecin-là, si je le revois, je lui dirais que je l'ai fait et que c'est possible et qu'on ne peut pas faire croire aux femmes qu'elles ne sont pas capables de mettre au monde quand elles-mêmes, elles savent que c'est faux, qu'elles peuvent le faire. Donc, petite revanche avec cette histoire-là. Et au niveau du postpartum, ça a été assez difficile parce que j'ai ressenti beaucoup de fatigue. Et là aussi, je n'étais pas préparée à tout ce que j'allais vivre. Je n'étais pas assez renseignée sur la manière de faire face à la fatigue, de mettre en route l'allaitement, les montées de lait. Je pense aujourd'hui que tout ça, ça commence à venir de plus en plus, que les femmes ont besoin d'être soutenues et écoutées. Et que petit à petit, grâce à des personnes comme toi, grâce au personnel de santé qui sont bienveillants, les femmes vont reprendre leur pouvoir, vont reprendre le girl power sur leur corps. Et pour le postpartum, ça va aussi avec. On va se préparer petit à petit et puis il y aura beaucoup moins de, j'espère, un jour de dépression postpartum grâce à l'information et à ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. Mmh. Parce que si c'était à refaire, je pense que j'aurais demandé de l'aide à une doula, par exemple. Mmh. Ou à la Lèche-Lit de France. mais voilà. J'avais envie de partager un récit qui est positif et en même temps qui a quelques difficultés pour montrer qu'on est tout capable de mettre au monde nos bébés, peu importe qu'on soit quelqu'un de fragile, quelqu'un de fort, qu'on ait une santé plutôt de fer ou moins, il faut se faire confiance. J'ai beaucoup répété ce mot-là, je pense que...
Je pense que le mot confiance, on peut en mettre des bonnes doses, quoi.
Confiance, ouais. Et puis la sororité aussi entre femmes, se soutenir. J'entends encore tellement souvent de femmes qui se comparent négativement au parcours d'une autre, alors que pas du tout. Chaque personne est différente, on a toute une histoire, on a tout un projet de naissance ou de maternité différent. Et si déjà, chacune, on arrivait à se soutenir et à se conforter dans nos idées, et dans notre capacité à mettre au monde, peu importe la manière dont on décide, que ce soit un accouchement physiologique, un accouchement par péridurale, une césarienne, le plus important, c'est d'être en accord avec son choix et de se sentir aligné.
Tout à fait.
Ça, c'est vraiment ce que je pense... vis-à-vis de tout ça, même si je mets beaucoup en avant tout ce qui est accouchement naturel, puisque c'est ma propre expérience et c'est mes convictions à moi. Je pourrais écouter des récits de toutes sortes de naissances toute la journée. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense que je pourrais dire plein de choses, j'ai l'impression d'en avoir oublié plein.
C'est classique.
Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est chouette, c'est chouette. Moi, ça me... La réflexion que le gynéco il a pu te faire par rapport à la déchirure, enfin le fait qu'il n'y ait pas eu d'épisiotomie, moi ça me questionne beaucoup parce que tu vois ça fait partie des choses où moi je savais pas trop non plus que c'était une épisiotomie avant d'être maman. Moi j'ai eu une déchirure donc pour ma première, une petite déchirure qui très franchement, j'en suis convaincue, tu vois, n'aurait pas été là si on m'avait pas dit pousser, 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 alors que j'avais pas du tout le réflexe. Ouais. Et enfin bref, voilà, on saura jamais. Mais quoi qu'il arrive, du coup, moi j'ai eu des amis qui après ont eu des épisios et on parlait. Alors moi, je sais plus que si c'était 2 ou 3 points que j'avais eu, quelque chose comme ça. Donc petit, mais quand même, j'ai eu une amie, je me souviens, qui avait eu une épisio, 2 ou 3 points aussi. Alors voilà, on sait pas, tu vois, on a tous des compositions différentes. On cicatrise plus ou moins facilement. Toujours est-il que moi, j'avais cicatrisé beaucoup plus facilement et je n'avais pas eu douleur beaucoup plus rapidement qu'elle, pour qui ça avait été très long. Maintenant, il y a des gynécos et des sages-femmes qui choisissent de ne plus faire d'épisio. Et tu sais pas, il peut y avoir une déchirure qui continue sur l'épisio ou pas. Mais toujours est-il que quand c'est une déchirure, ben, ça déchire juste de ce qu'il faut. Donc si la femme, elle peut être dans la position qu'elle le souhaite, tout ça, il y a peu de chances que ça soit... une déchirure qui soit énorme et ça se remet mieux en général, quoi.
Bah, en fait, on dit clairement que, il me semble que c'est même des études hein, qui le prouvent, qu'il vaut mieux une déchirure naturelle qui se résorbe bien qu'une épisiotomie mal recousue. Hein. Ça, c'est pour la vie de la femme, pour la sexualité, pour tout. Si ça cicatrise mal, c'est vrai que ça complique beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance de bien cicatriser. C'est vrai que j'ai eu une déchirure stade 4, je crois, donc vraiment une très grosse déchirure. Une très grosse déchirure, mais je ne saurais jamais vraiment à quoi c'est dû. Mais j'ai déjà la peau qui est assez fragile à la base, pas très élastique. Donc, elle arrivait super vite, ma fille. Sa tête, elle est descendue très très vite. D'ailleurs, pour le deuxième accouchement, j'ai encore eu une déchirure, mais c'était rien, c'était 2-3 points. D'accord. Fait par la sage-femme, et voilà. Mais comme quoi, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a une déchirure une fois ou qu'on a un placenta qui sort pas une fois que la prochaine naissance, ben, ce sera pareil. Par contre, on y travaille. Moi, là où j'ai regretté, c'est que j'étais pas du tout prête, comme je te disais avant, à ce qui suivait le bébé. Pour moi, le bébé, il naissait, j'avais réussi, et c'était OK. Alors que le reste, j'étais pas prête. Mm-hmm. Du coup, pour le deuxième accouchement, j'ai travaillé sur le placenta et j'ai appris à aimer cet organe qui, à cause de la société, me paraissait sale. Et puis en France, on les jette à la poubelle, alors à quoi ça sert ? Sauf que là, je suis tombée dans quelque chose où j'ai appris tous les bienfaits du placenta. Le fait que quand on clampe le cordon tardivement, il y avait un gros échange de fer qui se faisait. J'ai compris que c'était un arbre de vie qui permettait à mon bébé de grandir, qui permettait de le nourrir. Et j'ai fini par le voir comme un organe sacré, en fait, si tu veux. Donc, finalement, deuxième accouchement, je l'ai récupéré, j'en ai fait une peinture, une empreinte placentaire, et j'étais super contente de ça. Mmh. Et j'ai arrêté d'avoir des a priori dessus. Parce qu'au final, il ne faut pas en avoir, même pour le papa, qui des fois, ça peut paraître un peu sanguinolent. Mmh. C'est beau, un placenta. C'est juste un arbre de vie qui fait son chemin et voilà.
Ouais, c'est vrai que ça fait partie des choses qui avaient été assez difficiles pour moi aussi. C'est que le placenta de ma fille aînée, en fait, je ne l'ai pas vu. Juste, en fait, je n'ai pas posé la question. Moi, j'étais « aïe, oui, aïe, oui ». Et je sais que ça m'a traversé l'esprit, mais tu vois, elle devait avoir peut-être 1 heure, 2 heures, puis c'était au fond d'une poubelle depuis longtemps, tu vois. Ouais, et c'est vrai, on me dit « ah ben non, bah, on l'a acheté ». Je me dis « bah mince, je voulais le voir ». Et c'était même pas, ça leur avait même pas semblé une possibilité que j'ai envie de le voir.
Ah mais non, parce que c'est automatiquement pris et jeté. Mmh. Alors, tout ce qu'on peut en faire, et puis bah, on peut faire des capsules, enfin c'est un apport de fer, même pour nous, si on consomme. Bon, c'est pas moi qui le ferai, parce que les capsules, je peux pas manger avec mes médicaments. mais voilà, c'est plein de bons nutriments, et puis c'est un organe sacré, on devrait pas le jeter comme ça, comme si c'était rien à la poubelle. Enfin,
oui. Je pense qu'on a vraiment aussi une vision du corps qui est en train d'évoluer, de changer. Tu vois, comme les règles ont pu être vues comme quelque chose de sale et d'impur pendant longtemps. Puis là, ça, c'est en train d'évoluer. On est en train de se réapproprier aussi. Et c'est vrai que le placenta, je pense que je n'avais pas forcément une image négative au départ. Mais en tout cas, c'était un peu un gros steak, hein, quelque part.
C'est ça. Surtout, c'est lié au manque d'informations. Mm-hmm. C'est tout, parce qu'on ne nous parle pas de ça quand on va à la maternité ou... Moi, après, j'ai été très bien suivie avec ma sage-femme, donc on a beaucoup parlé. C'est pas quelque chose auquel on va penser. Ouais. Préparer, je me rappellerai toujours quand je suis allée chercher ma peinture au magasin de loisirs créatifs pour mon placenta, où la vendeuse, elle me dit « Alors, c'est pour peindre quoi ?» Parce que je voulais une peinture qui tienne bien. Mm-mm. Et je voulais c'est pour peindre mon placenta.
Le choc.
J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes. Du coup, je lui ai expliqué et puis elle m'a dit « Ah oui, c'est vrai. » Mais tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des tabous qui doivent être brisés. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'on doit tous faire des peintures et enterrer nos placentas, faire des cérémonies. Non, simplement, ça fait partie des choses qui vont avec la maternité et avec le corps féminin. Et c'est beau. Mm-hmm. Et il faut l'accepter.
Oui. Ça reste... Un organe, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui a nourri, permis de protéger, de nourrir notre bébé tout le long, quoi. Ouais. Tu vois, c'est rigolo parce que au mois de janvier, il y a une sage-femme qui est venue, Maria del Carmen. Donc, c'est une association Mitsa Hassein qui est à l'initiative de ce projet-là, en fait, de faire venir des sages-femmes avec des savoirs ancestraux et de venir partager, en fait, Memoria Viva, donc la mémoire ancestrale. Et quand elle est venue, on a fait une journée de transmission à la maison. Et j'ai trouvé ça magique parce qu'elle a vraiment évoqué différentes choses qu'ils peuvent avoir dans leur tradition. Et notamment le fait que pour une personne, c'est important de savoir où elle a été conçue, où elle est née, où son placenta est enterré. Tu vois ? Et ça fait partie des trucs où pour eux, en fait, le placenta, c'est essentiel. Et moi, par exemple, en voyage... on a les portes bébés Mong. C'est un bout de tissu qui passe de main en main dans le village tout le long de la grossesse. Et à la fin, donc il y a plein de motifs, tu sais, c'est magnifique, un artisanat merveilleux. Et quand le bébé naît, en fait, il est enroulé dans ce porte-bébé qui, symboliquement, est son deuxième placenta. Et en fait, il va être porté dans ce substitut de placenta pour le reste de ses premières années, quoi.
C'est magnifique.
J'adore. Aussi, ouais.
Il faut qu'en Europe, on s'inspire des autres cultures pour les naissances, pour plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de pratiques qui sont ultra belles, ultra intéressantes qu'on ne connaît pas. Mais après, je reviens sur ce que tu disais, le fait que c'est important de savoir un peu comment on est né. Tu vois, moi, ce qui a été dur pour moi dans tout ça, c'est que je ne le sais pas et je ne le saurai jamais parce que j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant.
D'accord.
Donc, quand je suis arrivée dans le milieu de la maternité, si tu veux, moi, je n'avais pas prononcé le mot maman depuis des années et c'était banni. Pour moi, c'était un mot horrible, tu vois, parce que j'avais vécu ce manque-là. Et c'est à travers ça aussi que je me suis construite parce que je n'avais pas le choix de comprendre, d'apprivoiser en fait cette maternité-là que j'avais pas connue en tant qu'enfant finalement, très peu. Parce que j'ai peu de souvenirs de mon enfance vécue avec ma mère. Du coup.
Ouais.
Mais c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que porter la vie, la donner et élever un ou des enfants quand t'as pas de souvenir de ton propre vécu, je pense que ça demande comme pas mal de force intérieure et de recherche, je dirais, comme ça. On se cherche soi-même et les autres aussi, puisque j'avais pas de modèle. Et dans un sens, je dirais pas tant mieux, mais je suis partie d'un casier vierge, donc personne pour me juger ou me donner des fausses idées, des idées reçues.
Ouais.
Donc ça, on va dire que c'est l'avantage et l'inconvénient, c'était d'être seule face à tout ça. Et... Parce qu'on y pense quand on est enceinte, on y pense à tout ça après. Ça refait surface, on le dit. De toute façon, avec la grossesse et l'accouchement, il y a des mémoires qui reviennent. Bon.
Mais ouais, complètement, ouais.
On s'en sort malgré tout.
Et du coup, tu as eu la sensation que... Tu as eu besoin d'être entourée de femmes en particulier à ce moment-là?
Oui et non.
Non.
Uniquement, je dirais, de ma sage-femme.
D'accord.
Qui est d'ailleurs aujourd'hui devenue une amie très proche. Parce qu'on a tissé de très beaux liens. Mais avant tout, j'avais besoin d'être seule. Parce que, comme je disais un peu au début, mais j'ai cafouillé un petit peu, voilà, c'est que j'étais une jeune femme. J'avais 21 ans. Ouais. Lors de ma première grossesse, j'avais peu confiance en moi, j'avais pas de ficelle, si tu veux. Et je pense que j'avais besoin de me retrouver seule et de me développer et de me comprendre et d'apprendre qui j'étais réellement. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est ce que je recherchais, c'est qui suis-je et pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux moi, comment je veux être dans ma vie future, en fait. Et c'est à travers cette maternité, à travers ce premier accouchement, que je me suis sentie renaître, où j'ai laissé la femme adolescente. J'ai eu une renaissance en tant que mère et en tant que femme.
Ouais.
J'ai laissé parler, comme on dit, le féminin sacré, qui était en moi, et la femme sauvage, celle que j'étais vraiment, mais qui attendait juste d'être révélée, en fait. Et grâce à cette expérience, pour une fois, je me suis fait confiance. Pour une fois, je n'ai pas douté de moi. Moi qui tout le temps remets en cause ce que je vais faire, qui revient sur mes actions. Là, j'ai foncé et je ne me suis pas posé de questions. Et c'est ça que je trouve assez dingue, en fait, dans l'accouchement physiologique. C'est qu'on y va. D'ailleurs, quand on accouche, en tout cas, pour moi, c'était un truc incroyable. J'avais fait l'impensable. Vraiment, c'était très, très puissant dans ma tête. Et pourtant, quand je regarde d'un point de vue externe, je me dis, mais j'ai juste accouché, comme toutes les femmes, depuis la nuit des temps. C'est ça qui est marrant aussi, je dirais, avec la maternité.
Ouais, complètement.
Autant c'est incroyable, autant on sait qu'on vit tous ces passages-là de donner la vie. Et ça transforme, ça transcende. Moi, ça m'a... C'est pour ça que je te disais la mue, parce que j'ai l'impression d'enlever une peau de serpent et puis d'en faire toute une nouvelle.
Ça me parle beaucoup. Dans ton titre, tu parles de la femme fragile à la femme sauvage, parce que justement, j'ai des vers à soie à la maison en ce moment. Ils muent régulièrement, tu vois. C'est des petits vers qui changent de peau tous les 4-5 jours, un truc comme ça. Et puis là, tout à l'heure, on les a observés, en fait, qui changeaient. Et justement, tu vois, au tout départ, quand ils sortent de la mue, ils sont encore tout fragiles, tu sais, la peau, elle est toute neuve. Et du coup, ça me fait vraiment le même effet, finalement, tu vois. Quand tu es jeune accouché, comme tu disais, bah ouais, avec du recul, t'aurais voulu pouvoir dire non, tout ça, mais t'es pas là-dedans, à ce moment-là. Et c'est d'où l'importance d'avoir fait un projet naissance, d'être entouré, accompagné par des personnes qui peuvent porter ta voix, parce que c'est très difficile à ce moment-là, t'es dans la rencontre, t'es dans une autre énergie.
Complètement, on est... Après, on se laisse comme porter par tout ça, c'est pour ça que je conseille de faire les projets de naissance, parce que mine de rien, même si l'accouchement ne se passe pas exactement comme on l'avait écrit sur le projet de naissance... Ça fait partie du cheminement de préparation.
Oui. En fait. De se poser les questions, bien sûr, de savoir ce qu'on veut.
Tous ces livres qu'on lit, se préparer une playlist, tout ce qu'on va faire en pleine conscience et en étant connecté à soi et à son bébé, ça va aider pour le jour de l'accouchement. Oui. Peu importe ce que c'est, une promenade, une douche brûlante, peu importe. C'est les pensées dirigées, en fait, qui vont faire effet le jour de la naissance.
Mais ouais.
C'est ce que j'ai ressenti, moi. Je pense aussi que c'est pour ça que parfois, on a des accouchements rapides, ou douloureux, mais qui restent... comment dire, hein, des accouchements qui sont douloureux pour le corps, mais qui, mentalement, finalement, ne sont pas si durs à vivre. Parce qu'on s'y prépare chaque jour. Chaque jour.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux aussi raconter la deuxième naissance?
Je peux te raconter un petit peu. La deuxième naissance, du coup, j'ai fait le choix de faire un plateau technique par rapport à mes antécédents. Je préférais avoir quand même une petite sécure médicale à côté au cas où, si j'avais une autre déchirure ou quoi que ce soit. Et ça, c'était dans un petit coin de ma tête parce que je savais que ça se passerait très, très bien. Et j'ai pensé à l'accouchement de maison. Mais vu que ici, je suis locataire actuellement et je pense qu'en tout cas pour mon conjoint, il aurait aimé que ça soit dans notre maison plus que dans un appartement où on vit, si tu veux. Donc, on s'est dirigé vers un plateau technique et c'était pas dit qu'il soit accepté. Justement parce que j'avais une déchirure, parce que j'avais eu rétention placentaire. Mais c'était OK, donc parfait. Et j'ai vécu un accouchement similaire et très différent. Dans le sens où, maintenant que j'avais révélé ma femme sauvage, maintenant que j'avais confiance en moi, maintenant que je savais ce que c'était, j'ai pu lâcher prise totalement. Chose que j'ai un peu moins fait quand même sur... pendant la première naissance. Et c'était différent parce que j'ai fait beaucoup de pré-travail. Le fameux. J'aime pas utiliser le mot faux travail ou non, parce que pour moi, toute contraction, même si elle n'est pas du travail vraiment d'accouchement, c'est un cheminement, c'est une préparation pour la naissance. Donc à chaque fois que j'avais cette douleur-là, je me disais, allez, mon corps se prépare, c'est bientôt, ça va pas tarder. Et le jour de la naissance, mon conjoint, lui, le sentait. Il est parti au travail. Il s'était dit, ça va être aujourd'hui. C'est marrant parce que moi, pas du tout. Le soir, ouais, c'était vers 18h par là, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais moi, je me suis dit, on a le temps. C'est le début. Et puis, c'est peut-être du pré-travail. Sauf que, on n'avait pas le temps.
Ah oui.
Donc, ça a été très rapide. Il est rentré du travail, j'avais besoin d'être seule. Chose qui, d'ailleurs, comparativement à mon premier accouchement, je voulais être avec lui. C'était lui mon... Là, je voulais être seule. Donc, il a emmené la grande en vélo faire un tour. Je les ai expédiées. Et il m'avait dit plein de bougies, etc. Lui, il était sûr que c'était bon. Et je me suis pris un 10-15 minutes de méditation où j'ai fermé les yeux, j'ai respiré. Je me suis connectée. J'ai parlé à mon bébé. Et voilà, je lui ai dit que c'était le moment, j'étais prête. On ne connaissait pas le sexe pour cet enfant-là, du coup.
D'accord.
On m'avait gardé la surprise. Et quand ils sont revenus, bon, en même temps, je disais à ma sage-femme, prends ton temps, tu peux manger avec tes enfants et tout. J'ai juste les premières contractions. Et quand elle a vu que je lui envoyais plein de messages et que je lui dis, écoute, je vais prendre une douche, j'ai quand même mal, elle m'a dit, je pars. Mm-hmm. J'arrive, je pars. Et moi, je me suis dit, ah bon, bon, je vais prendre ma douche. Et évidemment, eau chaude, ça m'a déclenché des contractions fois mille. Et je suis rentrée dans mon vortex puissance maximale. Et là, ce qui était différent avec mon premier accouchement, c'est qu'il fallait que je vocalise. Je ne pouvais pas être calme, respirer. J'avais besoin de sortir des sons graves, des sons, des chants presque. Pourtant, je ne suis pas du genre à chanter, mais... Et puis après, c'était surtout des cris à la fin. Mais c'était impressionnant, je pense, au bout de l'extérieur, parce que ma première fille, elle me disait « ça va, maman, ça va aller, t'as bébé ». Donc je lui ai expliqué « écoute, maman, elle a mal, ne t'inquiète pas, je vais bien, c'est le bébé qui va arriver aujourd'hui, cette nuit ». Donc la sage-femme, quand elle est arrivée, j'étais adossée à mon mur en train de subir mes contractions parce que vraiment, la douleur m'a paru beaucoup plus intense que pour la première naissance. Mmh. Et elle m'a demandé si je voulais qu'elle vous amène. J'ai dit, écoute, oui, parce que j'ai envie d'en avoir le cœur net. Et là, elle était vraiment en mode, bravo, Justine, t'as fait le plus gros, t'as 6 cm et demi. Par contre, si tu veux la maternité, c'est maintenant ou jamais. Mmh. Là, c'était, ah oui, d'accord. Donc, le travail, il allait vraiment très, très vite. Donc, c'était plus gérable. Les contractions, elles ne venaient pas et repartaient comme je l'avais vécu pour le premier accouchement. Mais là, vraiment, elles me transcendaient, elles me cassaient en deux. Mais en même temps, même si j'avais très mal, c'était une douleur qui me plaisait parce que je savais pourquoi j'avais mal. Mmh. Donc, elle était là pour aider le bébé à venir au monde, pour que la naissance se passe bien. Donc, j'étais prête à les vivre et à les accueillir. D'ailleurs, un de mes regrets, c'est que ça a été un peu trop rapide, justement. Je trouve que je n'ai pas eu assez le temps de passer par les étapes. D'accord. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça. Mais on est parti à la maternité. Donc, la route, par contre, là, c'était interminable. C'était super dur. J'étais allongée derrière. Pareil, la poche des os n'avait pas rompu. Et on est arrivé à la maternité. Encore une aventure. Donc j'étais, je pense que j'étais à dilatation complète quand on est arrivé parce que vraiment, je sentais la tête du bébé en bas. Puis j'étais plus maître de ce que mon corps faisait. Je commençais à avoir envie de pousser. Et on arrive aux urgences. Donc on a mis notre voiture au niveau de l'entrée des urgences, si tu veux, parce qu'on n'avait pas le temps d'aller se garer. Et là, le personnel ne voulait pas m'emmener en salle de maternité. Mmh. Donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Ils étaient super impressionnés, en fait, de voir une femme à l'état animal comme ça. Je pense que peut-être qu'aux urgences, c'est pas ce qu'ils voient le plus. Mais ils étaient là, mais comment on va faire? On peut pas la déplacer. Donc là, tout de suite, ma sage-femme et mon conjoint, ils ont dit, non, on est là pour ça. On va l'amener dans la salle d'accouchement. Laissez-nous passer, tout va bien se passer, quoi. Mm-hmm. Du coup, je ne me rappelle pas de tout parce que j'étais dans un état tellement second que j'ai oublié beaucoup d'étapes de ce qui s'est passé, tant j'étais connectée ou déconnectée, en fait. Et on est juste monté à la salle de maternité. Je me rappelle que je criais vraiment, mais c'était des cris de force, hein, finalement. Ce n'était pas des cris d'horreur. Oui, j'ai dû dire 10 fois que j'avais mal, que j'en pouvais plus, mais... Parce qu'on me dit, mais au niveau du vécu, ça se passait bien quand même. Mmh. Et arrivé en haut, Heureusement que la sage-femme, elle m'a aidé à me déshabiller parce que j'étais plus capable de rien sauf de penser à la naissance. Et là, par contre, dans l'eau, je m'y suis jetée, mais elle était trop chaude. Donc, il y a eu un petit moment de « Ouh là là, c'est brûlant voilà. !» C'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, c'est un moment qui m'a... que j'ai bien retenu, du coup, parce que ça m'a perturbée dans mon processus d'accouchement. Mm-hmm. Et là, très différent du premier accouchement où je m'étais finalement assise dans l'eau, ni assise, ni allongée, à quatre pattes tout de suite. Instinctif, c'est à quatre pattes, c'est pas autrement. Et ce qui est top, c'est qu'il y avait un, tu sais, un gros coussin gonflable là, sur lequel j'ai pu m'affaler. Ouais. Donc ça, c'était vraiment bien. Du coup, ça m'a soutenue au niveau du corps. Et la posture était très agréable. Et ben, tu te suis en poussée. C'était d'une puissance incontrôlable. J'ai dû pousser deux fois. Et la petite, du coup, c'était une petite fille. Elle est sortie comme une fusée. Bébé fusée. Et le schéma, je l'ai rattrapé, je l'ai mis contre mon cœur, on l'a découvert. C'était un moment, encore le deuxième moment incroyable, le plus incroyable de ma vie, de nos vies. Et ce qui était différent avec ce plateau technique, c'est que c'était encore plus intime. Donc, c'était quelqu'un que je connaissais qui était là, c'était une amie, une sage-femme, c'était mon conjoint. Et on a pris tout notre temps. Faire chaque étape, le temps de découvrir ce bébé, de lui souhaiter la bienvenue. Pour moi, c'est très important de souhaiter la bienvenue à un nouveau-né, pour qui le passage est aussi dur, voire plus dur que pour nous, finalement, de passer de l'état aquatique dans sa petite bulle à arriver à avoir froid, la lumière, les nouvelles odeurs. Et puis... elle a mis un peu de temps à prendre ses couleurs, donc la sage-femme, elle a été très très vigilante pour ça, mais bon, ça a été. Moi, je sentais que ça a été, j'ai pas du tout paniqué. Et cocktail d'hormones. Cette fois-ci, j'ai eu une petite angoisse où j'ai tout de suite dit je vais avoir une déchirure, le placenta, il va pas sortir, récidive. Mmh. Mais je me suis vite recentrée et j'ai été apaisée par la présence de personnes de confiance. Je savais que j'allais pas tomber entre de mauvaises mains, peu importe ce qui se passait, j'avais quelqu'un qui était là pour veiller sur moi. Et le placenta est arrivé, comme par magie. Donc j'ai dû pousser une ou deux petites fois, pas plus quand j'ai senti des contractions, et puis l'arrivée en douceur, la réceptionner. J'ai pris le temps, voilà, de regarder lié à mon bébé. Je n'ai pas fait le choix de faire un bébé lotus, mais j'ai quand même bien profité de ce moment-là. Et puis ensuite, on les a séparés, tout en douceur, vraiment pas de pression. Et puis, j'allais bien. J'étais dans une forme olympique, c'est-à-dire que j'étais debout. Ça, j'entends aussi beaucoup dans les récits de naissance, c'est comme... Juste après la naissance, on est tellement euphorique de ce qui vient de se passer que j'aurais pu faire un marathon. Hein. J'étais debout et puis j'ai réalisé ma peinture du placenta. Donc, j'étais vraiment heureuse de l'avoir fait et prévu. Parce que si j'avais prévu de faire ça, c'était aussi pour m'encourager à me dire, voilà, ce placenta, il doit naître. Il faut que je lui fasse sa peinture, donc il doit venir. Et mon bébé va venir au monde et mon placenta va venir au monde juste après lui. Et ensuite, ce sera fini. J'avais du coup 2-3 points de suture, mais rien du tout. C'était même une ambiance bon enfant. J'ai encore une photo de moi où je suis allongée. Quelque chose de drôle. Malgré le côté un peu « il faut recoudre », j'ai pas eu de douleur en fait parce que j'avais mon bébé sur moi et ça me suffisait. Ma sage-femme m'avait proposé de respirer quelque chose, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Le méopale, comme ça.
Ouais, voilà, pour se relaxer. Mais j'en ai pas voulu, évidemment. Je voulais juste mon bébé, je l'ai mis au sein, première tétée. Et ça m'a suffi à ne pas avoir mal pour ces petits points de suture. Et là, ce qui était super, du coup, c'est que après ces instants où on a pu profiter et prendre notre temps sans séparation, comme j'avais pu avoir du coup au premier accouchement, on a fait des photos, des vidéos. Et ensuite, 2 heures après, 3 heures après, on est rentré chez nous. Et ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment plu dans cette naissance, c'est le fait de rentrer à la maison et d'aller me coucher dans mon lit avec mon bébé, avec la grande sœur qui dormait à côté. Du coup, elle s'est réveillée et puis hop, là, tu veux voir ta petite sœur.
Parfait.
Donc ça, c'était génial. Et puis, il y a aussi ce côté préparation. Maintenant, je savais ce que c'était le mois d'or. Je voulais mieux vivre mon postpartum. J'avais quand même mal vécu lors de la première naissance. Et mon conjoint avait pu poser des vacances à ce moment-là. Donc, j'ai eu 15 jours où j'étais allongée avec mon bébé au sein, où je faisais le minimum. Et pour comparer, j'ai vraiment vu la différence sur ma forme générale, sur mon bien-être psychologique, sur mes émotions et sur mes physiques. Je me suis remise beaucoup plus rapidement et je me sentais bien. Je n'ai pas eu de baby blues. Alors que la première, elle prenait son premier bain, je fondais en larmes. Je me disais, elle n'est plus dans mon ventre. Voilà, je pense que j'avais eu un... Même si la naissance s'était bien passée, je me suis sentie un peu arrachée à elle à cause de la rétention placentaire. Alors que là, pas du tout. La grossesse était terminée et mon corps, il était en mode postpartum, mais il était beau. J'avais ce ventre qui était devenu vide, mais qui venait de porter la vie. Et ça, pour moi, c'était beau, c'était magnifique. J'avais pas... Pourtant, bon, voilà, le corps postpartum, c'est pas ce qu'on préfère. Hein. Mais j'en suis fière de ce corps-là. J'ai pas vraiment de vergeture, juste une petite. Mais c'est ma petite vergeture de grossesse et je suis très heureuse de l'avoir. Voilà, en gros, comment la deuxième naissance, ça s'est passé. Donc, c'était assez similaire, quand même, les deux naissances. Mais elle m'a encore révélé d'une autre façon cette naissance-là.
C'est chouette, merci.
Je reste persuadée que si chaque femme avait accès, qu'on leur mettait sous le nez, parce que des fois, on ne pense pas tout simplement, quand on est endocriné dans le chemin traditionnel de l'accouchement, du suivi, j'aimerais que toutes les femmes soient éveillées avec ça, en fait, et reprennent le pouvoir de leur corps. Ce serait merveilleux, non?
Magnifique, complètement.
Si tout le monde avait... T'imagines si tout le monde, chaque couple, chaque femme avait confiance en elle, en fait, pour donner la vie, ça changerait le monde.
Complètement.
Je fais partie des gens qui pensent que la façon dont on vient au monde, ça fait de nous les adultes qu'on est demain. Donc, si les naissances étaient plus douces, même comme je disais, les césariennes, ça peut être doux, hein, si c'est fait avec bienveillance, si on est prêt, si on reste connecté à soi et au bébé, tout est possible.
Et du coup, est-ce que tu aurais, pour arriver sur la fin, un petit mot que tu aurais envie de partager? Qu'est-ce qui, toi, vraiment a été aidant?
Entourez-vous de personnes bienveillantes et suivez votre instinct toujours. Si vous avez le moindre doute sur quelque chose, sur une information, sur une relation, s'il y a quelque chose qui perturbe, écoutez votre instinct et n'hésitez pas à changer de suivi, à vous renseigner sur des manières de faire différentes et croyez en vous, en votre corps, en votre féminité, en votre bébé et vivez vos naissances, vos grossesses en pleine conscience et avec joie. Voilà.
C'est un très très joli message. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu et si le podcast vous enchante, il est possible de le soutenir par différentes manières. Vous pouvez en parler autour de vous,
mais également partager sur les réseaux sociaux, mettre 5 étoiles sur votre plateforme, mais aussi contribuer financièrement en faisant une petite donation à partir du compte Tipeee Enfanter et Devenir. Chaque petite somme compte et permet de pérenniser cette aventure. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.